Vous écoutez France Culture.
À voix nue, Philippe Petit s'entretient avec Pierre Legendre. Aujourd'hui, l'état de l'État. Pierre Legendre, Miroir d'une nation, l'école nationale d'administration. C'était un livre, un petit livre, mais aussi un film. Trésor historique de l'État en France, l'administration classique. C'est un livre qui pèse lourd d'ailleurs. Alors, je ne sais pas s'il faut supporter la charge de l'État. En tout cas, il faut en supporter le poids. Parce que Trésor historique de l'État en France, c'est un livre qui pèse. Mais Pierre Legendre, pourquoi voir la France à travers l'École nationale d'administration ? Est-ce qu'on peut cerner au plus près la spécificité française, le cas français en matière d'administration ? À vous lire, évidemment, on a l'impression que oui, vous êtes non seulement un défenseur de la démocratie représentative, mais vous êtes aussi un des plus grands penseurs de l'État français, il faut bien le dire. Alors, l'État n'est pas une forme de gouvernement en soi, mais il ne suffit pas de raisonner, selon vous, sur la démocratie, sur la notion de démocratie, pour accéder aux principes étatiques. Ma première question est, on ne peut plus simple, le principe étatique français est-il en train d'affronter, lui aussi, la concurrence d'autres modèles ?
Oui, c'est bien la question d'aujourd'hui posée par la gestion généralisée, par l'expansion du management mondial. Une question sur laquelle nous allons revenir. La question de l'État est une des plus délicates, puisque la question de l'État, la question de la démocratie, la question des institutions en général, détachée des enjeux subjectifs, devient une sorte de salade d'abstraction. Je crois qu'il faut revenir à des choses très simples. D'abord, en ce qui concerne la démocratie, c'est à se demander, quand j'entends les discours qui se répandent, si ce concept de démocratie est devenu une religion, ou si on parle toujours d'un régime politique. Bon, quand je vois avec quelle insouciance se répandent parfois des slogans ou des propos tels que le bulletin de vote est un chiffon de papier. Ce sont des propos que j'entendais enfant avant la guerre dans la bouche des fascistes. Maintenant, c'est devenu un thème sans doute très respectable, puisque venant de l'extrême gauche, puisque personne ne sourcille. Je suis étonné que, dans le même temps où on enseigne aux jeunes l'esprit civique, aucun journaliste spécialisé n'interroge l'extrême gauche sur ce qu'elle pense précisément de l'État et des institutions. Bien. Le mot État est un très vieux mot, un mot latin, qui a toujours, dans la tradition, été entouré d'un génitif, d'un complément de nom. On disait État, c'est État de quoi ? État de quelque chose. État du royaume, État de l'Église, État des ordres, noblesse, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'État ? Alors, un mot sur ce film, parce que le film oblige à cerner les questions au plus près.
Miroir d'une nation, l'École nationale d'administration.
Voilà. Le titre originaire de ce film, c'était « Mémorial d'une nation ». J'employais ce mot dans le sens des anciens traités de comptabilité qu'on appelait « mémorial » ou « mémoire ». Ce sont des documents dans lesquels on fait les comptes, les créances et les dettes. On fait le point d'une situation. Mais j'ai compris très vite que le mot « mémorial » évoquait dans l'esprit public le monument aux morts. Ce n'était pas mon objet. Et donc, j'ai repris, au fond, c'est un titre très adéquat, lui aussi, qui est « Miroir d'une nation, l'École nationale d'administration ». D'abord, une remarque sur ce film. Tous les films que je fais sont des films d'institution. Si vous voulez, c'est mon ami Frédéric Weissmann, avec
le grand documentariste,
où,
oui.
Nous partageons d'avoir été l'un et l'autre voilà. Professeur de droit.
Vous avez fait tous deux des études
nous,
de droit.
Nous sommes chacun dans un certain sillon. Bon, nous avons peu à peu finalement créé un genre littéraire dans le documentaire, à l'intérieur du documentaire.
Vous pourriez le qualifier comment, ce genre littéraire ? Un documentaire d'idées ?
Comme je dis parfois, c'est la méthode du peintre cubiste qui prend son objet de face, de biais, de toutes sortes de par des différents angles d'attaque, qui fait que le produit semble tout à fait intrigant. Enfin, je m'expliquerai plus tard, un jour, sur mes méthodes de travail, sur cette manière de concevoir un film d'institution.
En tout cas, ça sera une trilogie, en fait.
Hein. En tout cas, oui, ce sera une trilogie, puisqu'il y a la fabrique de... Nous avons démarré avec la notion d'Occident, puis nous en sommes venus à la France pour poursuivre par la mondialisation. Et alors, nous sommes dans le cas français. Alors, le cas français, pourquoi l'ENA ?
Oui, pourquoi ?
Pourquoi ? Eh bien, je vais vous donner une réponse très simple. Parce que l'ENA est le témoin de la verticalité française, du gouvernement vertical, qui est une invention du plus vieil État souverain sur le continent. La France a inventé l'État administratif, qui a fait fortune sur le continent et bien sûr au-delà du continent, et qui, sur le plan de l'organisation institutionnelle et politique, a été et encore le rival du système de common law britannique ou anglo-américain. Mais enfin, il ne faut pas non plus confondre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Bien, restons-en au cas français. Pour illustrer très simplement la question, je dirais la France est une Union soviétique qui aurait réussi.
Vous aimez cette formule, effectivement.
Oui, j'aime cette formule parce que c'est une féodalité libérale réussie. Je vais prendre un exemple tout à fait concret. Voyez-vous, l'institution préfectorale. L'institution préfectorale, c'est ce à quoi la Russie communiste a été confrontée et n'a pas pu s'en sortir, pour des raisons diverses et variées, notamment du fait que la Russie de 1917 était, vis-à-vis du reste du continent, et notamment de la France, un pays foncièrement sous-administré.
Excusez-moi de vous devancer, vous dites du préfet, mais je crois que vous allez compléter, qu'il est à la fois un commissaire politique et un chef administratif.
Voilà, c'est là précisément où je voulais en venir, parce que Le préfet, qui dit préfet, dit département, ça c'est encore une question à part, qui dit préfet, dit l'invention napoléonienne, qui a été une synthèse liée à la conjoncture de 10 ans de révolution entre 1789 et Brumaire, le coup d'État de Brumaire 1799, s'est écoulé 10 ans au cours de cette période. La France a expérimenté toutes sortes de régimes politiques, y compris l'État terroriste. Il ne faut jamais oublier non plus que la France a inventé l'État terroriste.
1793.
Bon. Et eh bien, ce qui s'est passé avec Napoléon, c'est un compromis étonnant. Napoléon ne savait pas très bien ce qui allait en sortir, bien entendu, au fil des siècles à venir. Et ce préfet, qu'est-ce que c'est ? Le préfet, c'est à la fois un commissaire politique, au sens le plus radical du terme, les commissaires qui ont fait fortune sous la Première République, sous la Convention, Et il est aussi un chef d'administration. Eh bien, quand l'Union soviétique s'est effondrée, nous avons eu une pléthore de spécialistes en tout genre, notamment évidemment, comme il se devait, les techniciens américains venant des États-Unis, des
soviétologues,
grandes universités, non. Seulement des soviétologues, mais des spécialistes d'organisation, de public administration, comme ils disent. Et alors, Harvard, les grandes universités américaines ont délégué toutes sortes de gens pour faire du diagnostic institutionnel. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti ? Ils nous ont sorti que c'était le produit de dysfonctionnement. Eh bien, à mes yeux, ils n'ont manifestement pas compris la situation historique et politique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de dysfonctionnement. Au contraire, l'administration soviétique c'était deux administrations parallèles, une administration politique qui était celle du parti et une administration technique qui était celle des administrateurs, des techniciens de l'administration, disons des gens de la gestion. Eh bien, cette impossibilité de nouer la politique et la technique de l'administration a fait que ces deux administrations ne pouvaient que s'entre-paralyser. C'est pourquoi le régime soviétique accumulait les régimes d'exception, les privilèges divers et variés pour les scientifiques. On leur crée de toutes sortes de lieux administrés selon des règles exceptionnelles.
Et des villégiatures aussi.
Et tout à l'avenant, bien sûr. Mais le fond des choses qui nous intéresse, c'est vraiment cette affaire de la synthèse préfectorale qui est vraiment, je dirais, une réussite tout à fait extraordinaire, qui malheureusement n'est pas bien comprise des Français. En ce moment, la fonction préfectorale est érodée, parce que nous sommes dans l'administration française est dans une situation de, je ne dirais pas de chaos, mais de désordre technique, le chevauchement de compétences, d'imbrication, de règles multiples, de multiplication des régimes. À quoi s'ajoute la relance de la féodalité sociale. Qu'est-ce que c'est que la féodalité? C'est la multiplication des statuts particuliers. Alors que ce soit au nom du sexe, au nom de ceci, au nom des professions, au nom de n'importe quoi, on a une multiplication des privilèges, ce qui fait que sur la pente où nous sommes, eh bien, un beau jour, il faudra en revenir à ce qui se passait à la fin de l'Empire romain, où c'était le règne de la personnalité des lois. On demande à quelqu'un « sous quelle loi vis-tu ?» et on lui applique le régime qui le concerne. Je veux bien qu'on parle de république, de démocratie, mais il faudrait tout de même savoir où nous en sommes, puisque le thème que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est l'état de l'État en France. Ce qui devait arriver, est arrivé, à savoir que l'Europe, évidemment, agite le flacon pour la raison que les Français, je parle de la culture française, est coupée de la compréhension de la tradition qui porte les États occidentaux. L'État est aujourd'hui devenu, sous l'égide de la technicité occidentale, une sorte de produit international de série. C'est standardisé, c'est un instrument institutionnel standardisé, moyennant quoi on s'imagine sur cette planète désormais ceinturée d'État, que tout le monde va marcher au même pas, que l'État veut dire la même chose pour tout le monde et que le règne de la technique va enfermer toutes les questions. Bien, évidemment, il n'en est rien. Et dans le cas français, au fond, nous sommes dans une situation qui me rappelle à certains égards les grands documents de la fin de l'Ancien Régime, le rapport de Turgot, le rapport, les rapports de Necker, tout, qui ont préparé le grand coup de balai de la Révolution française, qui a agi d'une façon tout à fait, j'allais dire, étonnante, par l'audace des mesures prises, et en même temps, ils avaient dans l'esprit cette dimension qui, ou ce sens qui a disparu, c'est la capacité de poser un geste fécond parce qu'il est aussi pour partie aveugle. Or, aujourd'hui, nous prétendons tout maîtriser, tout planifier, tout anticiper, de sorte que nous sommes devenus incapables de poser des gestes qui soient féconds, c'est-à-dire en acceptant cette dimension de l'imprévisible, laisser la vie courir, venir, s'adapter, et puis avoir, eh bien, comprendre qu'un geste est aussi un geste aveugle.
Bon, alors, quel pourrait être aujourd'hui, Pierre Legendre, ce geste fécond? J'aimerais aussi que, parallèlement à ces questions, à cette question, on reprécise ce que vous pensez du centralisme français au regard du rejet français de l'idée fédérale. Dans la mesure où vous semblez dire que notre système pourrait perdurer s'il n'était talonné par le management, mais je pourrais peut-être ajouter aujourd'hui s'il n'était talonné, non pas par tous, mais par certains avocats d'affaires, si la reféodalisation à l'échelle planétaire dont vous parlez ne nous concernait pas, or elle nous concerne. Donc tout cela bouleverse l'idée d'administration. Un petit mot avant de vous redonner la parole, puisque nous sommes dans les murs de l'Association des anciens élèves de l'ENA, j'en profite pour citer un entretien on ne peut plus fécond que vous avez accordé en mai 2007 sur la question de l'État, qui est dans un dossier qui s'appelle « État et histoire ». Et cette revue s'appelle « L'ENA hors les murs », Pierre Legendre. Bon.
Ne mélangeons pas tous les registres, si j'ose dire. Parce qu'on parle, par exemple, du management pour le dénoncer, des cabinets d'affaires pour les dénoncer, mais dénoncer, ce n'est pas comprendre.
D'accord.
Il y a une question de fond qui est que, enfin, un fait, qui est que, comme il est naturel, la France est talonnée par la compétition en tout genre, y compris politique, y compris en Europe même, parce que les Français sont à l'esprit, au fond, il faut appeler les choses par leur nom, par la grande nation. Ils se sont, au fond, quand on parle de l'Europe, la construction de l'Europe, les Français ont dans l'idée que ça va être, je reprends la formule des temps napoléoniens, la grande nation, et que tout le monde, plus ou moins, on va arriver à des compromis, ça va passer par des compromis, mais finalement, c'est la France qui va emporter le morceau, si je puis dire. Évidemment, il y a la grande question de l'Allemagne qui, au début du 19e siècle, était un pullulement de micro-États. On sait ce que la poussée centraliste a donné en Allemagne, ça a tourné toujours au drame. Et les Allemands ont trouvé le compromis politique, institutionnel et démocratique de l'esprit fédéral. Mais ce qui est compréhensible en Allemagne ne l'est pas en France. À quoi il faut ajouter le fait que le monde britannique est un monde, comment dirais-je, qui est porté par l'esprit médiéval. Bon, on ne peut pas parler d'État en Angleterre, il faut parler de la couronne ou de la règle de droit, mais pas du droit ni de l'État au sens français. Alors, les Français ont le plus grand mal, puisque pour les Français, la France n'a rien à faire avec le droit romain, ni avec le droit canonique. Elle est le produit des légistes, de la monarchie et surtout de la Révolution française. Il suffit de prendre le Code civil, n'importe quel article. Ce code civil qui est rédigé dans un français magnifique à la Jean-Jacques Rousseau, ou qui était, comme vous savez, faisait l'admiration de Stendhal. Je pense à un article fondamental qui est très beau, qui est l'article 1134, qui dit « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Les Français peuvent être fiers de cette rédaction. Grattez cet article, comme on gratte le sous-sol, et comme je dis, si on a une conception sédimentaire de l'histoire et non pas linéaire, on s'aperçoit que derrière ça, il y a un texte de droit romain très célèbre qu'on peut retrouver au Digeste, dans le grand corpus de Justinien, qui a fait loi pour toute l'Europe. Bon, et évidemment, les Anglais, c'est autre chose. Les Anglais, ce pays protestant, common law, la première fois que j'ai eu contact avec le droit britannique, c'était une sentence de la Cour de la Chambre des Lords qui traitait d'une histoire de divorce. Et c'était une argumentation comme les Français n'ont pas l'habitude d'en faire, je parle des juges français, un véritable traité. Et où il y avait, à ma grande surprise de débutants, ils ont cité non seulement le droit romain, mais les décrétales pontificales et tout à l'avenant. Donc pour eux, bien que protestants, le droit pontifical fait partie de la tradition du droit jus commune, comme on dit au Moyen-Âge, qui a donné en traduction anglaise common law. Bon, mais le common law, c'est le droit... J'allais dire, de tout le monde britannique. C'est la base du droit américain. C'est quelque chose de considérable. Donc, j'ai toujours lutté pour qu'en France, on restaure le minimum de culture pour comprendre comment est né l'État moderne. L'État moderne. Les Anglais ont raisonné pas du tout à la française. Je vais donner un exemple. Un exemple tout à fait intéressant, parce qu'il montre... comment nos règles politiques qui semblent aller de soi n'ont rien d'évident. Par exemple, prenons la majorité, le principe de majorité. Je note qu'il a fallu des siècles pour accepter ça, pour construire l'idée de majorité. On a d'abord accepté, et là, dans cette affaire, les élections épiscopales ont joué un rôle majeur. Bon. De même, la gestion des ordres monastiques. Bon, mais en France, vous ne pouvez pas traiter de ces questions en sciences politiques. On va vous dire qu'est-ce que vient faire la religion là-dedans, puisque la religion est censée n'intéresser que l'individu. Or, la France est comme la reprise du système pontifical. Bon, là-dessus, je pourrais m'expliquer longuement. Mais pour en revenir à cette affaire de principe de majorité, les Anglais ont raisonné à partir d'un texte de droit romain qui traitait... de la tutelle des mineurs. Ça n'a rien à voir à première vue avec la politique. Qu'est-ce que dit ce texte ? En cas de pluralité de tuteurs, quand il y a plusieurs tuteurs, une décision doit être prise pour gérer les biens du mineur, est-ce qu'il faut le consentement de tous les tuteurs ou un seul suffit-il ? Et alors il y a un principe qui est tout à fait anecdotique, mais qui a été extrait de ce texte et qui est devenu, au XIIIe siècle, une doctrine de base et qui se dit, je ne vais pas vous réciter le latin, mais il dit, en traduction, « ce qui concerne tous doit être approuvé par tous ». C'est-à-dire, il vous pose là le principe d'unanimité. Eh bien, le principe de la majorité, c'est une fiction d'unanimité. En quel sens ? Dans le sens suivant, quand le Parlement français vote à la majorité une décision, une loi, eh bien, cette loi vaut non seulement pour la majorité, mais pour tous. Donc, on retrouve là les idées. Mais c'est devenu pour nous des évidences, mais ça n'a rien d'évident. Bon, et alors, il y a en France aussi une question vraiment centrale, c'est qui rejoint, et je vais évoquer un point très important qui rejoint votre question sur l'esprit fédéral, les Français ne comprennent pas l'idée fédérale. Bon, on ne peut pas leur en vouloir, ni
accuser
les Français. Et écoutez, ça, c'est l'histoire de la féodalité française. La démocratie française, c'est au fond une démocratisation des privilèges. Et ça s'est fait comment ? Eh bien, ça s'est fait grâce à cette institution si remarquable qu'a été le département. Or, je regrette qu'on ne lise plus ces textes, et notamment à Sciences Po. Le brave notaire de province, qui s'appelait Touré, qui a rédigé le projet de loi qu'a voté la Constituante créant les départements dans la foulée de la Révolution, mais immédiatement, en 90-91. Donc la France est découpée en départements. On a discuté si on allait donner des numéros ou des noms autres. Il y a eu un célèbre discours de Mirabeau qui dit « Nous ne sommes pas des sauvages arrivant sur les bords de l'Orénoque, nous sommes une nation vieille. » C'est pour ça que Mirabeau emportait le morceau et on a donné des noms naturels aux départements. Bon. Mais les départements, ça c'est très intéressant, les départements. Touré, un monsieur de la bonne France, de la bonne vieille France de la fin du XVIIIe siècle, qui se trouvait là, écrire une loi, et ce qui est devenu la loi sur les départements, il dit exactement ceci. Le département est fait, d'abord, contre l'esprit de localité, et pour empêcher, je cite, pour empêcher la démocratie dans les provinces.
Donc c'est le contraire de la loi sur la régionalisation.
Pour empêcher la démocratie dans les provinces. Qu'est-ce qu'ils avaient dans l'esprit ? Pas la démocratie telle que nous la concevons. La démocratie du welfare state, que nous appelons l'État-providence. Je vous signale en passant, petite parenthèse, que alors que les Anglais disent welfare state, l'État du confort, eh bien, les Français emploient l'expression du pape Léon XIII. L'État-providence, eh bien, ça a toujours été, c'est mon ami Supio qui a levé ce lièvre.
Et Alain Supio. Indiqué,
oui, Alain Supio, qui a montré, érudit comme il est, raffiné comme il est dans ses analyses, il a montré que cette appellation, ben c'est l'appellation pontificale. Ce qui prouve que les Français ont beau être laïcs, ben voyez-vous, ce sont de fidèles pontificaux. Bien. Alors, j'en reviens au département. Si la France met de l'ordre dans ses affaires, elle devrait vraiment faire une opération de lessive, une lessive institutionnelle, et
supprimer le département.
Supprimer le département. Je suis le partisan de supprimer les départements. C'est évidemment avec ça, ça va avec une déféodalisation de la France. Ça, c'est touché à la démocratisation des privilèges. Alors ça, je ne fais aucun pari là-dessus.
C'est ce que vous appeliez tout à l'heure un geste fécond.
Voilà.
Merci Pierre Legendre pour ce regard appuyé sur l'état de l'État. Demain, nous parlerons de l'empire du management. C'était À Voix Nue. Philippe Petit s'entretenait avec Pierre Legendre. Réalisation Dominique Costa.